Gilles Bidoux, la comédienne. À Françoise Balsiguer, en mémoire de sa mère, Marguerite Kavadaski, la grande comédienne. Tout le monde avait été soulagé de la voir apparaître, radieuse, le soir de la dernière représentation. Car les mois précédents, autant pour ses proches, sa famille que ses camarades, s'étaient déroulés sous forme d'un long et triste calvaire, dont il semblait qu'elle ne pût sortir, malgré les soins et l'amicale attention dues à la femme exceptionnelle et à la grande comédienne qu'elle était. Aimée du public et des gens de la profession, ce qui n'est pas toujours compatible. On retrouvait avec satisfaction son beau visage slave, ce sourire aimantant tous les regards, le profond velours de ses yeux admirables qui avaient fait chavirer tant d'hommes, qu'ils fussent acteurs ou spectateurs, son charme, un charme fou, son exquise et pudique féminité. Ce n'était plus la femme accablée, bien que digne dans sa douleur, traînant le poids de son veuvage entre les poids de sa vie, s'arrachant avec une peine infinie à cet appartement où s'entassaient tant de souvenirs tangibles ou intangibles pour braver les affres des répétitions et les regards faussement enjoués de ses camarades. Elle, toujours en tête des plus folles et des plus incertaines aventures théâtrales, elle, dont la formidable énergie et l'infinie patience faisaient, outre ses éminentes qualités d'intelligence et de sensibilité, la réputation, avait dû passer sous le joug de la fatale douleur que constitue la perte d'un être aimé et admiré. Mais ce jour-là, le soir de cette dernière représentation, elle semblait ressusciter des ombres, lisses, éclatantes, comme elle l'avait toujours été auparavant. À quoi ce miracle était-il dû? On avait beau s'interroger, on ne trouvait pas la réponse. Il fallait se contenter et se réjouir de ses retrouvailles avec le théâtre, auquel, et ce n'était pas une formule creuse, elle avait donné toute sa vie. Il y avait eu, bien sûr, à part égale, sa famille, son mari, le timide et pourtant malicieux médecin, l'homme, considéré pour sa droiture et son dévouement, le protecteur, le fin lettré, le jardinier aussi fou de ses roses qu'elle l'était de son art. Il y avait le fils, naturellement, dont elle suivait la carrière de metteur en scène, entreprise à l'étranger et dans une autre langue, dont elle ne possédait elle-même, malheureusement, que les rudiments. Elle disait « Je suis une comédienne française ». On n'a jamais fini de découvrir notre langue, sa richesse, nos auteurs. Oh, bien sûr, il faudrait connaître toutes les langues de la terre. La vie est à la fois si longue et si courte. Si longue et si courte. Elle l'avait été pour ce jeune et brillant médecin qui lui avait donné une vie décente hors du théâtre. Calmant ses angoisses, soutenant ses enthousiasmes. Mariée, elle avait d'abord connu une vie infernale avec un comédien. Son fils était de lui. Intransigeant, jaloux, souvent absent par la force des événements, avec lequel les choses s'étaient rapidement fissurées jusqu'à devenir insupportables. Il avait fallu cesser l'aventure dans l'humiliation et les larmes. Démunis l'un et l'autre devant l'ampleur de cette catastrophe personnelle, qu'on ne pouvait décortiquer comme on le fait au théâtre. Mais ce second mari, l'homme de sa vie, n'était pas venu régler son sort tel un sauveur à la fin d'une pièce dont l'auteur a décidé qu'elle ne finirait pas dans le drame. Il ne fut que progressivement intéressé par la vie de cette jeune patiente, dont on lui parlait dans son entourage. Mais il n'allait pas au théâtre. Il connut ses déboires, dont elle avait fini par lui parler. Il sut qu'elle avait un fils. Il fut touché, sans doute, avant d'être amoureux. Lui dédiant, lui avait-il dit, son existence, dont elle savait qu'elle était comblée par sa passion de la médecine, de la recherche et des roses. Mais, respectant les domaines pour elle étrangers, à part les roses, de son futur mari, elle prit, jusqu'à sa si rapide fin, la première place dans son cœur. Ainsi avait-elle vécu à ses côtés, non sans qu'il y eût des difficultés, une vie comblée. Elle avait eu les plus beaux rôles qu'une comédienne puisse imaginer. Elle avait parcouru les quatre coins de l'Europe, en téléphonant tous les jours lorsqu'il ne pouvait l'accompagner. Elle s'était réjouie de la réussite de son fils. Elle avait fait la paix avec le compagnon de sa déroute. Elle avait tout. Elle le disait elle-même. Et si elle se laissait aller parfois à des colères contre la vie, elle ne concernait que ceux dont le manque d'exigence et la vanité lui paraissaient coupables. Car, sans vouloir prophétiser ni se complaire dans l'utilisation de grands mots, le théâtre était pour elle un art sacré, dont elle s'était faite servante, cherchant au-delà des apparences le point de fusion. Ayant souci de servir une idée, un créateur, sans être automatiquement tenté de se substituer à lui, de lui faire dire davantage ou toute autre chose que ce qu'envisageait l'auteur. Aussi n'avait-elle cessé de mettre en chantier, de creuser dans le passé de sa mémoire profonde, de s'immerger, tout en restant lucide, jusque dans les textes contemporains les plus audacieux. On avait reconnu sa sincérité, sa probité, son courage. Elle était un modèle, mais elle ne se posait pas en savoir absolu et ne donnait conseil que lorsqu'on l'emprissait. Ce fut avant le lever du rideau de « La visite de la vieille dame », où elle interprétait le rôle de Claire Zakanassian avec un tel talent qu'elle obtint un triomphe mérité, qu'on fut averti de la mort subite de son mari, pourtant en excellente santé. La nouvelle fit aussitôt le tour des loges et des coulisses, et les comédiens, malgré le choc et d'un commun accord, surent garder ce lourd secret jusqu'au baisser du rideau. Ce fut alors le chef de troupe et metteur en scène qui, bouleversé, vint à elle. Ses partenaires, figés, se tenant à distance. Elle comprit tout de suite. Ayant trouvé l'atmosphère de la soirée étrange, avait-elle dit à l'entracte, au régisseur, qui avait balbutié qu'il ne voyait pas de différence avec les autres représentations. Mais le malaise général, malgré l'application de chacun, avait fini par transparaître. Aussi était-elle comme intérieurement préparée à l'annonce qui allait lui être faite. Pardonne-nous, mais nous ne pouvions pas te l'annoncer avant le début du spectacle. Mon fils ? Mon mari, c'est grave. Elle s'accrochait au messager d'un malheur qu'elle ne pouvait pas deviner si total. Ton mari, tout à l'heure. Ce fut un cri. Il est mort. Il est mort. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Elle se précipita dans les bras de l'homme qui essayait de lui dire ce qu'il savait, ce qu'on lui avait appris par téléphone, au restaurant où elle mangeait en devisant joyeusement avec ses camarades. Il est tombé dans le jardin, en fin d'après-midi, au milieu des roses. On l'entoura. Elle gémissait comme une bête. Cependant que les admirateurs envahissaient les coulisses, le plateau, ne comprenant pas ce qui se passait après une pareille représentation. On les refoula gentiment et, saisissant par quelques bribes de mots que le côté dramatique de la situation n'était pas dû au théâtre, ils finirent par refluer d'eux-mêmes sur la pointe des pieds. On appela un médecin, mais elle refusa le calmant qu'on lui proposait. On se mit conjointement en quête d'une voiture particulière, afin de la ramener aussi vite que possible à son domicile. Heureusement, le lieu de la représentation n'était pas trop éloigné de la capitale, et il ne fallait qu'une petite heure pour la rejoindre. Dans le quart de la tournée, il y aurait, ce soir-là, une place vide sur le chemin du retour, et peu de mots échangés entre les voyageurs. Dans ses roses, voulant rafraîchir le bouquet du salon, face contre terre, foudroyé, trois roses dans une main, le sécateur dans l'autre. Tombé dans les rosiers, ainsi le sang était sorti de sa peau fraîchement rasée à cause des épines, un peu de sang, quelques larmes, comme d'un adieu. Alors que le sang du dedans s'était figé sous la décharge du cœur et du cerveau. Il n'avait pas eu le temps de souffrir, et la jeune pianiste qu'il avait vue tomber, par hasard, entre deux reprises d'une sonate de Scarlatti, descendue en toute hâte au jardin commun aux deux maisons, avait tout de suite pensé, compris, constater qu'il était mort. Avant que d'autres témoins n'arrivent, avant d'appeler le médecin, avant de téléphoner au théâtre, sachant heureusement que la comédienne, son amie, y jouait le soir. L'ayant quittée au début de l'après-midi, elle était venue prendre le café avec eux. Elle le faisait souvent. Elle était un peu comme leur fille. C'était très gai. Puis elle était remontée. Elle préparait un concert. Elle jouait Scarlatti. La fenêtre était ouverte. Elle s'était approchée. Elle regardait le jardin. Presque aussitôt, elle avait vu son voisin tomber, d'un seul coup, comme une masse, comme tombe un oiseau, dans ses roses qu'il aimait tant. La comédienne joua le soir même de l'enterrement. On lui avait proposé de reporter la représentation, bien que cela créât toutes sortes de difficultés. Elle avait refusé. On ne rompt un contrat au théâtre qu'en cas de force majeure, c'est-à-dire si on est certain de son incapacité totale, absolue, de jouer. La représentation se déroula dans une émotion saisissante. Mais elle et ses camarades surent faire rire malgré tout, aux bons endroits. De ce rire grinçant qui vous tord un peu plus les entrailles. L'ovation qu'ils reçurent, elle l'écouta avec politesse et une sorte d'absence qu'on comprit, et que le public lui-même respecta. La tournée s'achevant, elle ne remonta plus sur les planches pendant de très longs mois, et n'apparut un peu que derrière les micros de la radio, pour quelques textes. Mais elle repartait aussitôt, adressant un pâle sourire à ses camarades. Cet homme, qu'on croyait, pour ceux qui le connaissaient trop peu, ne vivre que dans son ombre, était en vérité sa force et sa lumière, son ami, son conseiller, autant que son mari. Elle le consultait sans cesse, et lui-même lui exposait sans trahir le secret médical les problèmes humains de ses patients, dont beaucoup, à la longue, avaient dépassé le stade de patients pour devenir des amis. Elle avait besoin de lui plus qu'il n'était possible de le penser. C'était en lui qu'elle puisait des certitudes et une sérénité qui lui faisait défaut à elle. Tiraillée entre le provisoire, l'éphémère, la perpétuelle remise en question du théâtre, et la foi très simple, sans ostentation, l'itinéraire de foi sans apprêt que suivait, sage parmi les roses, son mari. Ce fut ainsi dès le début de leur union, un juste partage de l'équilibre nécessaire à tous deux, sans pour cela exclure ni les hasards, ni les aléas, les cheminements chaotiques de leur propre aventure. Assurés tous deux de servir leur passion et leur art, la médecine en étant également, pour ceux dont la vie est centrée sur l'autre, au travers d'un dialogue qui ne concerne pas que le corps, mais l'identité totale, pour ne pas dire l'âme de ce dernier. Ils vécurent ainsi, dans cet état d'urgence heureuse, que ressentent ceux dont la vocation, ce terme galvaudé, est indéfectible. Leur amour, devenu le relais de ce qui était pour eux davantage qu'un métier, leur permit de supporter les coups du sort, les critiques et les intrigues d'un monde dans lequel la lucidité doit aller de pair avec la générosité. Oh, nul parfum de morale bien pensante dans cette attitude, qu'on se rassure, mais une mise en éveil, une mise en cause à tout instant des pouvoirs, des devoirs, des faiblesses et des éblouissements de leur propre personne, et une écoute, une chaleur d'accueil qui ne pouvait que toucher ceux qui les approchaient. Cette mise en jeu commune de la vie leur donnait tout à la fois une présence, une transparence sans égale, que seule la mort, disait-on, pourrait séparer. Il était tombé dans ses roses comme un enfant trébuche, mais il ne s'était pas relevé. Il avait fallu des mains pour retourner sa face contre le ciel, pour le poser sur le lit de son dernier sommeil. Elle le trouverait là, avec les fleurs qu'il était allé cueillir dans ses mains rassemblées, le visage paisible où s'esquissait un sourire, sans nulle angoisse, les traits détendus, un vieil homme au visage d'adolescent qui n'a pas envie qu'on le réveille. Elle fut forte. Elle fut à la hauteur de l'admiration de tous, sans le chercher, sans vouloir paraître. Mais elle fut faible aussi, et déchirée, s'abandonnant hors de toute présence à sa douleur, à ce chagrin qu'elle allait porter pendant presque une année, devenue lointaine, insaisissable, dans ce combat qu'elle menait pour garder la dignité d'une femme dont la dérive et la solitude s'accentuait chaque jour. On faisait tout pour l'entourer, la distraire. Son fils, resté à ses côtés le plus longtemps possible, avait rompu à temps quelques engagements pour s'occuper d'elle. Puis il dut, malgré tout, se résigner à partir, promettant de revenir le plus tôt possible, lui téléphonant souvent, l'encourageant, prenant de ses nouvelles auprès de ses amis, anxieux, il ne le cachait pas, de l'imperceptible dégradation de ses espoirs et de ses aspirations. On le rassurait, essayant de se rassurer soi-même. Une femme comme sa mère, une artiste comme elle, ne pouvait que se remettre, lentement bien sûr, de cette perte, mais elle y parviendrait. On pouvait le parier. Elle était parvenue à surmonter tant d'écueils. Elle avait toujours témoigné tant d'enthousiasme. Elle reviendrait à la surface. Ce n'était qu'une question de temps, et puis on l'aiderait. On ferait tout pour l'aider. Il pouvait être tranquille. D'ailleurs, semblait-il, les choses allaient déjà mieux. En effet, elle accepta un engagement dans un spectacle de plein air. Décidée à renouer avec ses débuts, avec l'ambiance aventureuse et passionnée d'une jeune troupe dont les faibles moyens, compensés par une ardeur et une foi où elle se retrouvait, lui importaient peu. On avait choisi Molière, le maître du rire, et son propre maître sur les pas duquel elle avait entamé sa carrière du temps du fameux cartel et des jeunes fous qui l'animaient. Copeau, Dulin, Jouvet, Pitoëf, tous disparus depuis. Elle répétait avec une fougue presque inquiétante, ne cédant à la pression de sa peine que hors du travail, devenant soudain muette, ne participant qu'à peine à la fièvre s'emparant de tous à l'approche des représentations. Par la force des choses, on ne pouvait l'entourer autant qu'on en aurait eu le désir. D'ailleurs, elle repoussait avec gentillesse et fermeté les témoignages d'amitié que les jeunes comédiens lui prodiguaient, et préférait se retirer seule dès les répétitions terminées. On joua, et ce fut pour elle, tout d'abord, et pour la troupe, soulagée, un nouveau triomphe. Molière, le patron, récoltait une nouvelle fois le succès mérité qu'il n'avait pas toujours connu durant sa vie. Un plaisir sans mélange unissait les interprètes et le public, et cette cure de jouvence rejaillissait sur tous, promettant un avenir sans ombre aux projets échafaudés avec exaltation. La comédienne, pourtant si brillante dans les feux de l'éclairage épanouissant la teinte des vieilles pierres rendues à la magie nocturne, délaissait le lieu et la compagnie, sitôt la représentation achevée. Et le poids d'une sourde inquiétude pesait alors aussitôt sur chacun. Vint la dernière représentation, et tous furent stupéfaits de l'éclat de fraîcheur et de jeunesse du sourire qu'elle affichait, de la gaieté retrouvée avec laquelle elle aborda, bien avant le lever du rideau, ses compagnons, qui se félicitaient et la félicitaient de cette sorte de résurrection. Un extraordinaire bonheur régna durant le spectacle, faisant d'autant plus regretter à tous les participants que ce fut, déjà, la dernière. On la couvrit de fleurs, et elle envoya à ses camarades et au public des baisers qui ne pouvaient trahir qu'un bonheur parfait. Non, ce n'était pas une vieille femme, ce n'était pas une veuve qui témoignait ainsi de l'émotion d'une pareille joie. C'était une comédienne, au fait de son art, dédiant à chacun le meilleur de ses dons et de sa vie. La réception qui suivit, à laquelle elle assista presque jusqu'au bout, fut chaleureuse et dénuée de tout apprêt. Elle eut un mot amical pour chacun, et toute la troupe la raccompagna à la voiture qu'un ami, venu la chercher, avait mise à sa disposition. Après quoi on se dispersa, le cœur en fête, avec l'assurance d'un rendez-vous prochain et de projets enthousiasmants. Ce fut dans le courant de l'après-midi suivant que la nouvelle se répandit. L'ami, la comédienne, avait quitté ce monde de son propre chef. Femme de médecin, elle savait comment s'y prendre afin de ne pas rater cette ultime sortie. La lettre qui accompagnait son geste ne laissait aucun doute. Elle s'était endormie et reposait à tout jamais avec le même sourire qu'avaient retrouvé son public et ses camarades. Trois roses reposaient sur sa poitrine sans souffle.